Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Il y a des romans de l'entre-deux. Celui-ci pourrait être un roman de l'entre-trois. Trois lieux, l'archipel ouest-africain du Cap-Vert, Lisbonne, la capitale de la puissance coloniale, et Paris, la ville de la vie nouvelle. Mais surtout trois générations de femmes, la grand-mère, Mamée, la mère, Reine, et la fille, Léna, narratrice de cette histoire familiale dans laquelle affleure la mélancolie de l'exil, le rêve d'un avenir meilleur et la peur de ne pas y parvenir. Entre l'héritage, si fondamental mais parfois si pesant du passé, les difficultés quotidiennes du présent et l'aspiration à de beaux lendemains, comment avancer et devenir soi-même en se délestant des entraves mais en préservant l'essentiel? La réponse est peut-être dans ce premier roman qui fait vibrer les cordes sensibles des cavaquinhos, du piano et de l'écriture. La passagère d'Amélie Fonlu est parue aux éditions Rivage et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Amélie Fonlu.
Bonjour, merci de me recevoir pour parler de mon livre.
Avec grand plaisir. À chaque rentrée littéraire, on reçoit justement des auteurs ou des autrices de premiers romans dans cette émission, ou en tout cas de premiers romans publiés, ce qui n'est pas forcément exactement la même chose. Et la plupart du temps, en tout cas pendant ces dernières années, on se rend compte qu'un premier roman, eh bien, soit il est largement autobiographique, soit il est né d'une fêlure intime, d'une histoire familiale ou d'une recherche d'identité qui ramène un peu l'autrice ou l'auteur à lui-même ou à elle-même. Est-ce que c'est aussi le cas de La Passagère ?
Alors, pas du tout. C'est pas du tout une autofiction. C'est vraiment un roman que j'ai construit de toutes pièces. À l'origine, en fait, je l'avais écrit une première fois et je m'étais inspirée d'une femme que je connaissais. J'avais raconté son histoire et puis je l'avais écrit en entier. Et finalement, je l'ai réécrit une deuxième fois en me dégageant de l'histoire de cette femme que je connaissais et en inventant des personnages, en créant vraiment toute une situation différente et en y intégrant des thématiques que moi, j'avais envie de mettre dans ce roman et qui étaient plus personnelles. Mais ce n'est absolument pas mon histoire et cette histoire n'existe pas et aucun des personnages n'existe.
Alors, vous êtes une femme, donc il y a forcément des thématiques qui vont rentrer peut-être en résonance par rapport à ce que vous êtes, mais quel est votre lien avec le Cap-Vert ? C'est pas banal du tout comme endroit où faire commencer une intrigue.
Non, alors en fait, c'est comme je le disais à l'origine, je me suis intéressée au Cap-Vert parce que je connaissais une femme qui venait du Cap-Vert.
Et donc, que vous avez rencontrée
en France. Oui. Et donc, je m'étais intéressée à son histoire à elle. Et donc, j'avais écrit son histoire, un roman tourné autour de son histoire. Et donc, ça m'avait fait m'intéresser à ce pays. Et je me suis énormément renseignée, je me suis beaucoup documentée.
Vous êtes allée sur place ?
Je ne suis pas encore allée sur place. Non, maintenant, je rêve d'y aller. Et surtout, parce que je me suis documentée et que j'ai beaucoup appris sur ce pays et j'ai écrit dessus maintenant, je rêverais d'y aller. Mais c'est pour ça que je suis venue d'abord à m'intéresser à ce pays parce qu'elle m'y a amenée. Et ensuite, quand je me suis dégagée de son histoire à elle, j'ai voulu garder le Cap-Vert parce que j'ai trouvé que c'était un pays merveilleux, avec une culture très riche et qui est une manne pour l'imaginaire parce que c'est une population très authentique avec la saudade qui est très importante chez eux, la musique qui est très importante, les mornas, c'est un peuple qui est catholique mais très superstitieux, donc il y en a qui vont voir des marabouts, enfin, et donc pour l'imaginaire c'est merveilleux. Moi ça m'a vraiment aidée et j'ai voulu garder vraiment ça pour développer mon histoire parce que tout ce que j'avais lu m'avait vraiment enrichi et donné envie.
Alors votre narratrice qui s'appelle donc Léna, elle sait qu'elle vient du Cap-Vert, mais elle n'y est pas née. Ça reste au fond un peu vague pour elle. En fait, pour elle, le Cap-Vert, c'est là-bas. Ce sont les deux mots que vous utilisez, Amélie Fonlu. En fait, elle est de là-bas, mais est-ce qu'elle est vraiment de là-bas finalement ?
Elle est de là-bas parce que ses origines, sa grand-mère et toute sa famille vient du Cap-Vert. Après, elle, effectivement, elle est née en France, elle est française et elle en parle avec les mots des autres, avec les mots qu'on lui a donnés, enfin ce qu'on lui a raconté. Donc c'est un récit d'un récit. Malgré tout, ses origines sont quand même très profondément ancrées en elle. Elle est vraiment capverdienne dans le fond et on comprend au fur et à mesure dans le récit pourquoi et avec tout ce que ça implique et tout l'héritage, toute la transmission qu'elle a reçue et qui vient donc de ce pays. Donc elle vient de là-bas, mais elle est aussi, elle est française. Et pour le coup, elle, c'est la troisième génération, donc elle n'a absolument pas connu le pays. Elle n'a même pas connu sa grand-mère qui vient du Cap-Vert.
Voilà, et c'est donc, par les yeux de la grand-mère que le lecteur découvre cet archipel de l'Atlantique ouest-africain. Et le lecteur le découvre à hauteur d'enfant, puisque la grand-mère, donc Mamé, est au début du récit une enfant pauvre. Hein. Vous la décrivez d'abord, cette enfant, comme une métisse à la fois. Cap-verdienne, portugaise, africaine, créole, et rien de tout ça à la fois. Ce qui prouve déjà à la fois la difficulté et l'intérêt justement de définir une identité. D'ailleurs, je continue, hein. Vous l'écrivez, c'est aussi un mélange de noir, plus tout à fait noir, et de blanc, plus tout à fait blanc. Alors la formule est très belle, mais elle laisse entendre effectivement que c'est très complexe. C'est complexe ou c'est compliqué ?
Ce qui est vrai, c'est que quand on est au Cap-Vert, on est ce mélange, on vient des colons portugais qui sont arrivés pour découvrir ces îles et qui ont fait venir en tant que main d'œuvre des Africains.
Il n'y avait pas d'autochtones quand les Portugais sont arrivés.
Non, ils ont découvert vraiment ces îles et donc quand on est là-bas, on est de ce mélange et donc on est déjà quelque part. C'est ce que j'ai trouvé intéressant après quand j'ai raconté cette histoire, c'est que quelque part quand on est au Cap-Vert, on est déjà quelque part un peu déraciné et quand on part en France, on est déraciné d'un déraciné, quoi. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et effectivement, on est ce mélange-là qui fait une population très intéressante.
Alors, Mamé est la plus jeune d'une famille de 5 enfants. Elle naît le 27 août 1941. Et cette date de naissance, vous ne l'avez pas choisie totalement au hasard. C'est le mot qu'on puisse dire, Amélie Fonlu. Pourquoi le 27 août 1941 ?
Eh bien, parce que c'est la même date que Césaria Évora. Et je trouvais ça intéressant de faire le parallèle avec cette femme qui a eu un destin extraordinaire, qui a on a entendu parler beaucoup du Cap-Vert grâce à elle. C'est grâce à elle qu'on a entendu parler. Ça a été un peu la voix du pays à l'étranger. Et donc, je trouvais ça intéressant parce qu'elles n'ont pas du tout eu le même destin. Ma mère a un destin plus classique, plus banal, même si c'est loin d'être banal, sa vie. Mais je trouvais ça original pour le roman de faire le parallèle entre les deux. Et surtout que dans tout le livre, il y a ce fil rouge de la musique qui coule dans les veines de cette famille. Et même si Mamé n'a pas eu le même destin que Césaria Évora, quelque part, il y a eu aussi quand même cette lignée musicale, si je puis dire.
Mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Saudade, 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 disse minha terra, Saninclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 és minha terra sem inglês. Saudade, 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 és minha terra sem inglês.
Césaria Évora, la voix, la figure du Cap-Vert, la diva aux pieds nus, sa voix rock et chaloupée a effectivement largement contribué à populariser la morna, le blues du Cap-Vert, mais aussi la colaïdeira, la musique capverdienne dans son émotion et dans sa diversité. Alors c'est une vraie légende, hein, Amélie Fonlu, vous ne pouviez pas évidemment évoquer le Cap-Vert sans lui faire au minimum un petit clin d'œil. Et évidemment nous non plus, vous êtes sensible à la musique de Césaria Évora?
Pas du tout. Si, bien sûr, j'écoute beaucoup et j'ai d'ailleurs beaucoup écouté en écrivant le roman des chansons de Césaria Évora. Et je trouve que ce qui est merveilleux avec cette chanteuse et les chansons qu'on écoute au Cap-Vert, les Mornas, c'est qu'elles donnent des images à voir et on voyage en les écoutant. Et ça, moi, je suis très sensible à ça.
Alors, qu'est-ce que vous voyez là quand vous entendez sonner?
Je vois des paysages, je vois des plages, je vois ce que j'imagine. Je vois toutes les photos que j'ai vues dans les livres que j'ai lus qui parlent du Cap-Vert. Mais je ne sais pas, en tout cas, ça me fait rêver, ça me fait me transporter. Et je trouve que c'est assez agréable. Et je trouve ça agréable aussi. J'aime bien tous les... quand l'art donne, en stimulant un sens, en éveillant un autre. Et donc là, en écoutant, on voit, et je trouve ça formidable.
Alors le mot « saudade » s'écrit avec un « o » en capverdien, avec un « au » en portugais. Et ce qui transporte d'émotions, c'est un petit peu compliqué à traduire. C'est un mélange de sentiments assez complexes qu'on lit en général à l'exil. Est-ce que Mamé est-elle aussi, à sa manière, comme Césaria Évora, une enfant de la saudade?
Totalement, parce que elle naît au Cap-Vert et elle part en France. Et dans la saudade, il y a ce sentiment de mélancolie, à la fois d'espoir, de joie et en même temps de tristesse, et qu'on ressent quand on part, quand on quitte son pays, parce qu'on espère une vie meilleure quand on le quitte. On s'attend à quelque chose de formidable et en même temps, il y a la nostalgie de quitter un pays, une culture, une famille, un foyer. Et donc, elle est complètement là-dedans.
Alors, Mamé, elle va effectivement quitter son île, l'île de Santiago, et elle le fait pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la pauvreté, aggravée par la sécheresse qui frappe le Cap-Vert au début des années 40, une pauvreté qu'elle va devoir affronter seule avec sa fille Reine, hein, seule parce que ses parents sont morts, son père a abandonné sa famille, sa mère est décédée un peu plus tard, seule aussi parce que son mari va lui aussi prendre la tangente, et pour survivre, Mamé et Reine vont devenir voleuses de sable. Et c'est donc Léna, sa petite fille, votre narratrice qui raconte, nous sommes à la page 29 de votre roman.
Avec pour seul équipement des sandales en plastique, d'épais collants pour éviter les blessures aux jambes et des serviettes pour couvrir leurs cheveux, elles passaient leur journée à gratter le sol et ne retiraient de ce travail ingrat que quelques pièces, tout juste de quoi survivre. C'était dangereux, à peine lucratif, mais surtout interdit. Lorsque la patrouille policière débarquait, elle les arrêtait, confisquait leur matériel, vidait leurs sacs et leur ordonnait de partir. Cette pratique était catastrophique pour le pays. À cause d'elle, les poissons ne se reproduisaient plus. La terre ne fournissait plus son tabac et ses bananes. Elle le savait. Elle savait aussi qu'elle n'avait pas d'autre solution et préférait continuer de s'esquinter dans l'illégalité plutôt que de sombrer. Pourtant, c'est dire si le corps de Mamé était usé. Petit à petit, elle s'éloignait de la jeune femme belle et mince que d'autres avaient connue, abîmée par cette vie de labeur. Le soleil brûlait sa peau, ses joues se creusaient, ses yeux vitreux n'exprimaient plus rien. Et à tout juste 29 ans, ma grand-mère transportait déjà avec elle l'ombre d'une vieille femme. Cela aurait pu continuer longtemps comme ça, des années même. Deux de plus suffirent pour qu'un incident pousse Mamé à mettre fin au vol de sable. Un après-midi, malgré un temps orageux, le vent giflant la roche et l'océan, Mamé et Reine se rendirent sur la plage de Tarrafal, au nord de Santiago. Elles enfilèrent leurs tenues, au pied des chaussures, sur les jambes des collants, sur la tête, un linge drapé autour de leurs cheveux. Tandis que Mamé commençait à faire des petits tas, Reine s'aventura dans les vagues. Elle ne savait pas nager, mais elle s'entêta. Elle avança au point de ne plus avoir pied, un seau au bout de ses bras tendus, jusqu'à ce que, tout à coup, on ne vit plus que ses mains s'agiter à la surface. Mamé plongea, affolée, attrapa sa fille et la tira pour la ramener sur la rive. Elle l'allongea sur la plage et la secoua pour que Ren ne s'étouffe pas. En la regardant recracher l'eau, Mamé se mit à pleurer. C'était sa faute. Elle mettait la vie de sa petite en péril. Ce fut la dernière fois qu'elles arpentèrent la plage pour ramasser du sable.
Alors, il m'a beaucoup étonné, moi, ce passage. Mais dit, fondu, il finit d'une manière qui aurait évidemment pu être beaucoup plus dramatique. Et je me suis un petit peu renseigné. En fait, ce n'est pas du roman. Les voleuses de sable existent réellement au Cap-Vert.
Oui, il y a vraiment des voleuses de sable. En fait, quand je me suis renseignée sur le Cap-Vert, j'ai découvert ce métier qui est illégal, que certaines femmes, pour survivre, font. Et donc, qui est un métier illégal, qui est dangereux parce qu'elles vont très loin dans la mer souvent pour récupérer du sable et qu'après, elles revendent à des ouvriers pour construire des maisons. Et donc, ça a une pratique qui est courante là-bas. Et j'ai trouvé ça assez fou, assez bizarre comme métier. Je trouvais que le terme voleuse de sable aussi était assez intéressant parce que, à l'origine, même, je vais vous dire, mon roman, je pensais que je l'appellerais Les voleuses de sable. Mmh. Et finalement, bon, c'est pas le titre qu'on a gardé, mais c'est ce qui m'avait inspiré aussi parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose pour un métier qui est un enfer. Et pour autant, on les appelle les voleuses de sable comme si c'était proche des marchands de sable qui fait appel aux rêves, à tout l'imaginaire que ça peut créer derrière. Et alors que c'est un métier qui est un cauchemar. Et en plus, elles gagnent très mal leur vie en faisant ça. Et souvent, la police les arrête. Elles font ça dans la totale illégalité. Mais c'est un métier qui existe encore aujourd'hui et que certaines femmes pratiquent là-bas. Oui,
ouais, c'est un passage effectivement très, très fort du roman. Et juste après cet épisode, vraiment, on est quelques lignes plus loin, mais ils font lu une apparition. Vous utilisez ce mot presque dans son acception religieuse. Nous sommes à la page 31.
Un matin, alors qu'elle frottait du linge sur une planche à laver devant sa porte, une créature apparut comme un mirage. Couverte de bijoux, resplendissante, encombrée de bidons importés par bateau, la jeune femme rentrait de France où elle s'était installée 3 ans plus tôt. Rapportant dans ses bagages tout un tas de choses, des vêtements, des postes de radio, du riz, des pâtes, Mamé comprit enfin pourquoi ses voisins avaient repeint en couleur la façade de leur maison. Tous s'impatientaient de revoir Myriam, celle qui menait une vie confortable en Europe. À Paris, elle avait désormais une famille, un métier rémunérateur dans une grande société américaine, un appartement avec plusieurs pièces, une télévision et le chauffage. Elle voyageait, rencontrait des gens du monde entier. Myriam contribuait à perpétuer le mythe de l'exil, se refusant à dévoiler ce que la réalité lui avait apporté. En vérité, elle enchaînait les petits boulots de vendeuse ou de serveuse, des contrats de courte durée, vivait dans un studio avec son mari et ses 2 enfants. Elle avait économisé pendant des mois pour pouvoir rentrer au Cap. Pourtant, de retour au pays, il n'y avait pas de place pour la vérité. Elle fit croire à l'Eldorado, quoi qu'il en soit. Il valait mieux laisser chacun imaginer à sa façon ce qu'il fallait entendre par « vie confortable ». Mamé, subjuguée par son élégance et frappée par l'image d'abondance qu'elle inspirait, se résolut à partir avec Rennes. Elle rassembla des papiers, alla à la mairie, et sans que Rennes ne sût comment Mamé avait réussi à financer leur voyage, elles embarquèrent dans un avion.
Et c'est donc sur un malentendu, hein, presque sur un mensonge, le fameux miroir aux alouettes finalement de l'Eldorado européen, que le destin de Mamé bascule alors qu'elle a 30 ans, hein, on est en 72, et que sa fille Rennes en a 10, si je ne me trompe pas, Amélie Fonlu. En fait, comme beaucoup de parents africains, au fond, elles croient en un avenir meilleur et elles prennent le risque de partir. Elles vont quand même voir un marabout avant, hein, ça c'est quand même un petit détail.
Oui, comme je disais, il y a de nombreux Capverdiens qui sont assez superstitieux et donc qui vont consulter des marabouts et qui croient beaucoup en tout ça. Et donc elles y vont avant de quitter leur pays pour arriver en France. C'est un peu le souvent quand on part, on quitte son pays mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Quand les gens reviennent, ils ont presque aussi parfois honte de dire que en fait ça s'est pas passé comme ils pensaient quand ils ont changé de pays. Et donc elle suit ce mirage là quelque part et en espérant justement que elle aussi elles vont avoir le droit à cette vie meilleure ailleurs.
Mais Mamé décide de partir pour elle ou pour sa fille?
pour les deux, mais surtout pour sa fille, parce que justement, comme étant voleuse de sable et à un moment donné dans le livre, donc elle manque de se noyer. Elles se disent que voilà, ça va pas être possible d'avoir cette vie-là. Elle veut une vie meilleure pour elle et pour surtout pour sa fille, pour qu'elle ait l'opportunité de vivre autre chose. Et donc elle s'en va en se disant que bah il vaut mieux quitter ce qu'elles connaissent pour espérer avoir un meilleur destin, ouais.
Direction Lisbonne dans un premier temps et ensuite Paris et la région parisienne, on en parle dans un instant.
Hora de bem é hora de dor. Não crepa que manche. Cada vez quinta lembrar, crer ficar, morrer. Hora de vai, é hora de dor. Amor, deixa-me chorar. Corpo cativo, balbo que escravo, alma vivo, quem que há levado? Se bem é doce, vai é magoado, mas acabado, cata virado. Se não morrer na despedida, Senhor, des na volta, tá dando vida. Deixa chorar, destino dorme. O dor que cate nome, dor de crecheu, dor de saudade. De alguém que crê, quem crê. Destino dorme, o dor que cate nome, sofre na vista, se tem certeza, na boa ausência, na boa tristeza.
C'est Marino Silva qui chantera Dibaï dans cette version de la mornade du poète capverdien Eugenio Tavares, un poète adulé par votre personnage Mamé, la mère de Rennes et la grand-mère de votre narratrice Léna, la narratrice de La Passagère, ce premier roman que vous publiez aux éditions Rivage, Amélie Fonlu, avec ce vers célèbre dans cette chanson, Sikabadou Katabiradou, un vers qui est inscrit sur la statue du monument des émigrants érigé près de l'aéroport Nelson Mandela de l'île de Santiago au Cap-Vert, donc l'île natale de Mamé. Une phrase que l'on peut traduire en français de la façon suivante, il faut savoir partir pour mieux revenir. Est-ce que c'est une phrase qui résonne en vous et en vos personnages? Il faut savoir partir pour mieux revenir.
Alors, bonne question. En l'occurrence, pour mes personnages, quand elles partent de leur pays, elles pensent vraiment en partir, elles ne pensent pas à revenir. Il s'avère que Mamé a le mal du pays à un moment donné et y retourne. Et donc, elle n'est pas partie avec l'objectif de revenir avec une vie meilleure, finalement, au Cap-Vert. Et après, Rennes et donc sa fille Léna, elle ne retourne jamais au Cap-Vert.
Mais elle reste proche de la culture capverdienne. Elle participe à une association qui essaie de témoigner un petit peu, de partager aussi en France la culture de leur archipel natal.
Bien sûr.
Enfin, leur archipel d'origine, pas forcément natal pour le coup.
Bien sûr, parce que la culture capverdienne est ancrée en elle et que je ne crois pas qu'on peut s'affranchir complètement de là où on vient et que ce n'est même pas le but. Le but, c'est vraiment dans le pays qu'on adopte d'avoir les deux cultures et de ne pas se renier, de ne pas renier ses origines et tout en intégrant la culture du pays qu'on intègre. Mais oui, le Cap-Vert... Donc s'y revenir, c'est aussi y revenir mentalement et y revenir juste dans son cœur. Oui, alors à ce moment-là, ils y reviennent en permanence, oui.
En tout cas, Reine et sa mère sont bien parties. Elles sont installées en France, en région parisienne. Elles apprennent le français très vite. Une forme d'accélération de l'histoire là, dans votre récit. Au moment au moment de l'arrivée en France, Mamé trouve du boulot comme femme de ménage. Elle inscrit sa fille à l'école et elle lui met la pression. Alors ça, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont issus de l'immigration ou dans la famille est allé en exil en Europe, doivent se dire que c'est assez fréquent hein, finalement dans les familles comme ça en exil. Il faut que les enfants réussissent, quoi. Il faut qu'ils aient de bonnes notes et on leur met une pression absolument considérable. Pas toujours facile à vivre d'ailleurs.
Oui, parce que il faut justifier le départ, il faut que ça soit et ça vaille le coup, il faut pas être parti pour rien, et il faut réussir dans le pays et en être fier et voilà et pouvoir justement glorifier cette intégration, et c'est par la réussite. Et la réussite se fait souvent justement par des métiers assez classiques, et c'est là où on en vient à tout le dilemme de mon personnage principal, Léna, c'est qu'elle ne veut pas un métier classique, elle veut être artiste. Et c'est plus compliqué dans sa famille.
Alors effectivement, Léna, c'est votre narratrice. C'est tellement compliqué qu'en fait, il y a un sentiment qui arrive très très vite, c'est la peur. Et c'est vrai que le mot peur, c'est un mot que l'on retrouve, je crois, pour chacun de vos trois personnages à travers le roman. Ce sont des femmes qui ont peur et en même temps, ce sont des battantes, vos trois personnages.
Très bien vu. C'est des femmes qui sont très courageuses et en même temps, enfin, qui sont fortes et à la fois fragiles. J'avais envie de parler de la peur parce que je trouve que la peur fait peur et qu'il faut du mieux qu'on peut la combattre, lutter contre ça. Bien souvent, elle permet d'éviter des situations, mais bien souvent, elle empêche. Et donc, j'avais vraiment envie d'en parler pour dire que c'est aussi quelque chose qu'on peut recevoir en héritage, qui est plus subtil que des traits de caractère ou des traits physiques. Mais on peut quand même la recevoir de ses parents, de ses grands-parents, et par des mots, des gestes, des réflexes, et reproduire cette peur-là. Et c'est pas une fatalité. Je pense qu'il faut être capable justement de s'en affranchir et du mieux qu'on peut. Et ça c'est moi qui ai voulu aussi personnellement mettre des choses plus des thématiques qui m'intéressent quoi. Voilà.
Dernier extrait, page 66 du roman.
Un jour, alors que j'étais assise au dernier rang de la classe et que j'observais deux moineaux tournoyer au-dessus d'une branche d'arbre dans une danse incessante qui attira mon attention, je me suis fait attraper. Pourtant, je pensais ma technique imparable. Je calais un livre sur le côté, droit sur la tranche, à peu près au niveau de mes yeux, puis j'adoptais un air concentré et passais comme ça tout le cours à regarder par la vitre, m'égarant dans des pensées rêveuses et bercée par la voix de mes professeurs. Léna Médéros, on ne te dérange pas à ironiser Monsieur Paul ? J'ai sursauté. Reviens avec nous, s'il te plaît. Tiens, viens nous expliquer au tableau la leçon sur... Sur quoi ? Je n'avais pas entendu, mon cœur battait si fort tout à coup, mes joues se sont mises à chauffer. En moins de 10 secondes, je suis devenue écarlate. Je me suis levée, tremblante, je n'avais rien écouté. Tous les élèves m'ont fixée, je suis montée sur l'estrade et suis restée silencieuse, immobile, terrorisée, le cerveau vide. Mon professeur s'est impatienté. Alors, on attend ? Pas un mot n'est sorti de ma bouche. J'étais aphone. Et voilà, c'était mon tour. C'était donc ça, une crise d'angoisse ? 2/20, c'est la note que j'ai obtenue. Très peu pour évaluer le sentiment de ma honte. Tout le monde a ricané, mais je n'ai rien dit. J'étais comme ma mère. Cette peur, je la portais en bandoulière. Elle coulait dans mes veines. C'était elle que j'avais reçue en héritage. La peur, comme une maladie héréditaire dont on ne guérit pas.
Alors ce livre, Amélie Fonlu, vous le disiez, c'est aussi un livre sur la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu la peur de soi-même ?
C'est la peur de soi-même, la peur des autres. C'est un peu toutes les peurs, la peur d'oser... Et effectivement, oui, la peur de se confronter à ce qu'on est, à s'affirmer, à s'affranchir des injonctions qu'on reçoit. J'ai vraiment essayé de parler de toutes les peurs pour dire qu'il fallait du mieux qu'on peut s'en affranchir et la combattre. Et d'ailleurs, chacune, que ce soit Mamé, Reine ou Léna, c'est des femmes qui ont peur à un moment dans leur vie et chacune y réagit de façon très différente. Et chacune essaye d'aller vers plus de liberté, parce que la peur peut empêcher, emprisonner. Donc Mamé, elle est audacieuse, elle part de son pays, elle se dégage de cette peur-là. Reine aura plus de mal à s'affranchir de cette peur. Et Léna, elle veut justement s'autoriser à devenir ce qu'elle a envie d'être, à savoir pianiste, et donc à ne pas avoir peur, justement, à s'autoriser à avoir un métier artistique qu'elle pense, à tort, ne pas pouvoir faire dans sa famille.
VMDN sur RFI avec Amélie Fonlu pour son roman La Passagère aux éditions Rivage, avec quelques notes, vous l'avez sans doute reconnu, du Nocturne opus 9 numéro 2 de Frédéric Chopin, interprété ici par Vadim Raïmovitch. Et le piano, vous le disiez, Amélie Fonlu, il va jouer un rôle vraiment très important pour votre narratrice, la jeune Léna. C'est lui au fond qui va lui permettre de rêver de devenir pianiste. Et vous utilisez vraiment ce mot rêver. Justement, je vous cite, je venais, donc c'est Léna qui parle sous votre plume, je venais d'une lignée de femmes auxquelles on avait dit que le rêve était un luxe. Rêver peut donc être un luxe, on a l'impression que c'est extrêmement simple de rêver.
Ah oui, c'est simple de rêver, mais c'est simple de rêver dans son lit la nuit, mais d'accomplir ses rêves, c'est encore autre chose. Donc rêver, c'est pas juste le fait de le faire en soi, c'est après de s'autoriser à rêver et à accomplir ses rêves. Et ça, c'est autrement difficile.
Et celui qui va permettre, ou en tout cas encourager Léna à accéder à ce luxe, c'est un homme. Mmh. C'est un professeur de musique qui s'appelle Monsieur Selmac. Il fallait que ce professeur de musique-là soit un homme, Amélie Fonlu.
Ah, c'est marrant parce que oui, enfin, c'est-à-dire que... J'ai même pas réfléchi, c'est venu naturellement, le fait que ça soit un homme. Après, je trouvais ça intéressant aussi parce qu'il lui a donné, Il lui donne confiance en elle et il s'avère que les autres, beaucoup d'autres hommes dans mon roman, n'ont pas forcément ce rôle aussi, aussi positif.
C'est le moins qu'on puisse dire. Aussi bien pour Mamé que pour Rennes, les hommes qui sont dans votre roman avant que n'arrive ce fameux professeur de musique, M. Stelmach, ce sont des lâches, quoi. Ils ont souvent des problèmes avec la boisson, ils fuient leurs responsabilités, ils fuient vos personnages. C'est pas vraiment des gens recommandables, quoi. Je me suis dit, mais quel regard sur les hommes, c'est absolument terrible le reflet que vous renvoyez à vos lecteurs. Sauf qu'il y a Monsieur Stelmach.
Alors, pour mettre les choses au clair, non, en fait, en me renseignant sur le Cap-Vert, j'ai aussi remarqué que le rôle des hommes et des femmes là-bas était encore, la répartition du rôle était encore assez archaïque, et qu'il s'avère que les femmes tiennent le foyer, les hommes partent travailler ou partent même à l'étranger pour gagner leur vie, et donc il y a encore quand même une répartition qui est honnête.
Ils partent à l'étranger pour gagner leur vie, ils quittent la maison, quoi, ils quittent leurs responsabilités, ils quittent femme et enfant, souvent sans crier gare.
Oui, mais bon, c'est ce qui m'a permis aussi de, après, faire en sorte que dans ma narration, les femmes prennent leur destin en main et décident elles-mêmes de quitter leur pays, ce qui souvent se passe à l'inverse, c'est-à-dire que souvent, comme je l'ai dit, c'est les hommes qui partent et qui quittent le pays et les femmes restent à la maison. Donc là, dans la narration, c'était aussi intéressant. Et au-delà de ça, ils ne sont pas que ça. Effectivement, il y a aussi M. Stelmach qui, lui, est quelqu'un de positif, quelqu'un d'encourageant, qui va justement lui faire prendre confiance en elle, qui va avoir un rôle un peu de mentor et qui va être très important dans sa vie. Et par ailleurs, son petit frère, Max. Voilà, oui. Lui est
alors,
un
on va pas
jeune
trop raconter, non. Mais Max... Voilà,
non, mais c'était pour dire qu'il n'y a pas que des hommes lâches et égoïstes.
Non.
Et en plus,
mais Max
n'est
pas encore un homme. C'est un petit garçon.
Oui, mais c'est un homme en devenir.
Oui.
Et surtout, les hommes de ce roman ont permis aussi de montrer chacune des facettes des hommes et de montrer aussi que le Max, donc lui, il n'a pas vraiment... Enfin, de m'affranchir de certains clichés qu'on a sur les hommes, justement. Et de montrer qu'il y a certains clichés qu'on peut démonter, entre guillemets.
Alors Max, justement, il a une passion, c'est l'escalade. Oui. Et il y a beaucoup de passions dans le roman, parce qu'il y a aussi la dame chez qui Rennes fait le ménage, et que l'on appelle tout simplement Madame. Elle, sa passion, c'est la peinture. On a presque l'impression qu'elle vit à travers la peinture. Et puis, il y a la voisine aussi, Madame Patrick, qui, elle, passe sa vie dans sa cuisine. On a presque l'impression que pour avancer, pour progresser, pour faire face à soi-même, pour faire face au monde, pour briser les malédictions, eh bien, il faut une passion.
Alors, bon, j'espère que ce n'est pas forcément le cas, parce que sinon, ceux qui n'ont pas de passion, les pauvres. Après, oui, effectivement, ça donne un élan de vie. Madame Patrick, elle se noie comme ça dans sa cuisine parce qu'elle adore et c'est son côté un peu farfelu, chef d'orchestre. Voilà, et donc, et en même temps, quand il y a Léna qui vient chez elle répéter ses leçons de musique, elle se noie à nouveau dans la musique avec elle. Elle a besoin de et ça l'aide à vivre. Et c'est vrai que. Je pense effectivement que quand on a une passion, quand on s'intéresse profondément aux choses, c'est plus facile. Et ça donne du sens, ça donne un peu de poésie à la vie qui peut paraître parfois un peu répétitive, banale, quotidienne.
Un personnage très intéressant que Madame Patrick. Mais alors vous, Amélie Fonlu, est-ce que votre piano, votre pinceau, votre four, votre mur d'escalade, c'est l'écriture ?
Aujourd'hui, oui. Après, je me suis intéressée aussi au piano, à l'escalade, au Cap-Vert, parce que j'y connaissais rien. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est justement, je trouve que le livre est un merveilleux prétexte pour s'intéresser à ce qu'on ne connaît pas. Et le piano, c'est une grande frustration pour moi de ne pas en faire. Je pense que j'en ferai jamais. J'ai essayé déjà beaucoup de choses et je pense que là, je commence à savoir un peu ce qui est fait pour moi. Et donc voilà, donc, ça me permet de m'intéresser justement à l'escalade, au piano, à travers l'écriture. Et à travers l'écriture, on peut tout faire.
Mais quand vous écrivez, est-ce que vous avez l'impression de peindre un tableau, de composer de la musique, de cuisiner un bon ragoût, ou de grimper ou d'escalader une montagne ?
Alors, le processus d'écriture d'un roman est presque une escalade de montagne, effectivement. Après, l'impression de faire ça. Je sais pas. En tout cas, je construis, je compose ma narration. J'ajoute des touches. C'est de la composition au même titre qu'un chef d'orchestre compose ou un pianiste compose et au même titre qu'un cuisinier ou un chef compose ses plats. Je pense qu'effectivement, dans tous les arts, il y a ce dénominateur commun.
Alors, vous écrivez. Et puis vous illustrez aussi. Hein. Ouais. Vous avez aussi cette corde-là à votre arc. S'il y avait une image, il n'y a pas d'image hein, sur la couverture des livres des éditions Rivage, mais si vous deviez illustrer ce livre sur une couverture ou sur un bandeau, par exemple, qu'est-ce que vous dessineriez ?
Alors moi, mes illustrations, j'aime les faire parce que souvent, j'aime l'image s'ajoute au texte. Et c'est souvent des traits d'humour. Donc voilà. Donc je ne sais pas là bien quelle illustration je ferais. Mais sans doute, quelque chose d'assez qui ne va pas paraître très original. Trois femmes ensemble qui sans doute se tiennent la main et avec des expressions différentes.
En épigraphe de ce premier roman, Amélie Fonlu, vous avez choisi une citation de Miles Davis,
oui.
Qui, pour le coup, fait référence à la musique, mais qui pourrait peut-être aussi s'appliquer à la littérature. « N'ayez pas peur des fausses notes, ça n'existe pas. » Vous en êtes convaincu ?
Oui. Oui, je pense qu'il vaut mieux se planter que ne rien faire. Je pense qu'il vaut mieux, et pourtant, j'ai pas forcément grandi dans la culture de l'échec, mais je trouve que c'est merveilleux d'avoir des échecs pour savoir rebondir, pour s'améliorer. Et il faut pas avoir peur, justement. Et je trouvais ça justement intéressant de voir que dans la musique, il faut pas avoir peur des fausses notes. C'est toute la question de, justement, qu'on peut faire avec le parallèle, de jouer sa propre partition et de pas avoir peur. Oui, non, surtout pas.
Merci. Merci beaucoup, Amélie Fonlu, d'être passée nous voir sur RFI. La Passagère.
Merci à vous.
Votre premier roman est paru, je le rappelle, aux éditions Rivage.
Je n'ai pas le sourire, je fais mine d'être sur la piste malgré la routine. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de clown. Je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Je suis là pour vous faire oublier, vous voulez que ça bouge. Ce soir je suis payé, je remets mon nez rouge. Mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle. Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps. Je ne sais plus m'en défaire, mais qui suis-je vraiment? J'ai perdu mon chemin, avez-vous vu ma détresse? J'ai l'impression d'être un chien qui sait de ronger sa laisse. Mais ce soir la salle est pleine, vous voulez que ça bouge. Donc je nettoie ma peine et remets mon nez rouge.
Soprano dans VMDN sur RFI. Le mois d'octobre commence et la plupart des étudiants en France ont fait leur rentrée. Et aujourd'hui, dans VMDN, on va vous parler à présent de drôles d'étudiants. Saviez-vous qu'il existe en France une école de clowns, le Samovar? Elle est située près de Paris, à Bagnolet, dans la banlieue Est. Et il fait figure d'exception, ce Samovar, dans le domaine de cette formation au métier de clown, car il propose des formations au long cours, sur 3 cycles, avec un diplôme à la clé. Notre reporter Pincent Rire, Fanny Blechner, nous emmène avec elle pour un tour de piste.
Bon, et ben vous venez là, et puis on démarre.
Ce jour-là, au Samovar, une dizaine d'élèves sont évalués. Alors passeront-ils en cycle supérieur? C'est tout l'enjeu. Sur scène, de drôles de zozos en costume qui se prêtent aux exercices imposés. En l'occurrence, la boîte à outils, matérialisée au sol, 8 cases. À chaque fois qu'un clown y met le pied, il doit se plier à une consigne en particulier.
Sport, chant, manipulation d'objets.
Sport, chant,
manipulation d'objets. Masque, loi. Et je m'appelle...
Catherine Dubois est professeure au sein de l'école. Elle les guide au cours de leur formation autour du mouvement. Mais à quoi peut bien ressembler un tel enseignement?
Entre un cours de danse, un cours de mime, un cours de théâtre, des arts martiaux, ça pourrait être tout ce qui peut permettre au corps de s'exprimer.
Les clowns en herbe vont aussi se spécialiser en danse contemporaine, en chant, en musique, et c'est justement ce joyeux mélange qui a su séduire Bastien.
Je faisais de la capoeira où j'aimais bien le côté acrobatie, j'ai toujours bien aimé raconter des blagues, j'ai toujours bien aimé me costumer ou trouver mettre des costumes, des déguisements à droite à gauche. L'humour et tout ça j'aime bien, mais du coup tout ça je le faisais dans des cercles ou dans des disciplines un peu différentes, ou beaucoup de musique aussi pareil. Et du coup, dans le clown, on peut tout mettre.
Bastien a revêtu un costume de clown à l'ancienne. Bretelles ajustées, maquillage traditionnel. Le nez rouge, c'est avant tout un concept pour Amélie.
Le nez rouge, c'est un tout petit masque. C'est le plus petit masque qui existe. C'est un peu une manière de se couvrir et de pouvoir montrer des choses de soi, dans l'excès, et en étant protégé. C'est pas vraiment moi, c'est un clown.
Ce clown qui sommeille en eux, les étudiants vont le trouver, le révéler, l'affiner, nous explique le directeur et créateur il y a 30 ans de l'école, Franck Dinet.
Il y a un premier cycle qui permet comme ça de nettoyer un peu les tics d'acteurs ou de donner les bases pour ceux qui en ont moins. Et puis après, petit à petit, il s'agit de faire éclore la créature de chaque jeune acteur, jeune actrice.
Et les profils sont toujours assez variés, on trouve.
Des infirmières, des maîtres d'école. Voilà, on a toujours un ou deux par promotion. Et c'est joli, on accepte des gens. À partir du moment où on est capable de faire une roulade, il n'y a aucun problème.
Profil assez original aussi, celui de Tamata.
Moi, je vis en caravane depuis que j'ai 17 ans. J'étais sur la route avant, j'ai rencontré des gens du cirque. Voilà, je bossais dans les petites mains du cirque. Mais surtout pour avoir une famille, j'ai commencé à habituer avec eux et tout.
Et dans la case « Je m'appelle », voici ce qu'elle propose.
Je m'appelle tous les jeudis pour prendre des nouvelles. Allô? Allô? Ça va? Ça va? Je t'entends pas trop, j'ai pas trop de réseau.
Son exploit a aussi beaucoup plu au directeur.
C'est la foot, c'est une foot bretonne, c'est ça? C'est une foot irlandaise, ouais. C'est bien dans le nez, bon, c'est bien. Tu peux le développer, on va en avoir un peu plus. Vas-y, envoie de la flûte, quoi.
Avec de tels dons, les petits clowns savent qu'ils auront bientôt tout de grand. Louise, 20 ans, a déjà une idée de ce qu'elle aimerait faire à la sortie de l'école.
Alors, j'aimerais bien être clown laveur de vitres.
Pourquoi pas clown à l'hôpital pour d'autres? Les idées fusent au sein de l'école.
Ça s'arrête jamais de bouillir, donc c'est assez juste finalement. Ça fait marrer les clowns russes.
Et pour cause, le samovar est une sorte de bouilloire utilisée en Russie.
Le Samovar, école de formation professionnelle de clowns qui se trouve donc en région parisienne à Bagnolet, c'était Fanny Blechner. Dans un instant, le journal sur RFI. Demain, on restera en Afrique de l'Ouest, direction le Bénin, avec Sa Majesté, roi du Dahomey, Geza Yantime Tofa IX. Il présente à Paris, dans le cadre du Festival Imaginaire, un spectacle intitulé Ajogan. Il sera donc en direct avec nous et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.